Dans leur série « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent cette année, en 6 émissions, l'évocation des rapports entre la solidarité sociale et le monde protestant nîmois. Aujourd'hui, solidarité dans le monde du travail nîmois au début du XIXe siècle. Schubert nous accompagnera avec sa messe opus 13 en sol majeur. Écrite en 1814, alors qu'il n'avait que 15 ans. Nous avons vu la dernière fois que l'humanisme puis la réforme avaient valorisé l'initiative individuelle et fait sauter le carcan des corporations et autres confréries, ce qui avait contribué au développement du commerce international, mais avait aussi provoqué l'émergence de difficultés sociales liées au travail collectif, avec des contestations de l'ordre religieux et quelques prises en charge solidaires du groupe social. Henri IV, par exemple, réorganise et réglemente les corporations, congés, secours, hôpital, formation, et Colbert renforce ses réglementations en 1691, ce qui sera contesté au siècle suivant, vers 1755, par le libéralisme des physiocrates et des francs-maçons.
Voici le développement des réseaux familiaux internationaux et l'essor du système bancaire. À Nîmes, depuis l'édit de tolérance de 1787, la bourgeoisie protestante n'a pas abjuré que de bouche. Il domine ouvertement l'économie textile. Souvent franc-maçonne, elle se dit ouverte aux idées nouvelles tout en s'efforçant de contenir les salaires des ouvriers. Elle veut surtout participer au pouvoir politique local dont elle a été frustrée. Plusieurs familles vont y parvenir, favorisées d'ailleurs par la parentèle constituée au refuge suite à la révocation.
Parmi elles, la famille André, venue d'Ardèche. Ils se sont installés au XVIIe siècle comme teinturiers, au coin de la rue des Cardinaux, l'actuelle rue des Orangers, dans le quartier industriel de Lago, puis rue Doré, vers 1750, pour loger le clan familial des quatre fils, dont Jacques, mort en 1775, et qui était détaché au comptoir de Londres et de Gênes, où il aurait inventé la toile de jean, et puis au comptoir de Lyon et de Paris. Il collabore avec les banques Girardot et Germani et joue un rôle important pour financer la libération des prisonnières de la tour de Constance et des galériens, transmettant secrètement par lettre de change des fonds du refuge collectés à Genève à leur oncle Audibert, gros négociant de Marseille. Finalement, ils abandonneront le négoce pour devenir banquiers.
Détaillons davantage l'épopée de la famille Fornier, restée nîmoise et bien caractéristique de ses réseaux familiaux, d'où sortira un proto-capitalisme. Jacques Fornier vient d'Alès en 1687 comme apprenti chez Vernède, un riche négociant dont il épouse la fille 5 ans plus tard. Associé à l'affaire de son beau-père, il tire fierté de sa réussite commerciale quand il écrit « Quel état, mon fils, que celui d'un homme qui d'un trait de plume se fait obéir d'un bout de l'univers à l'autre ?»
Son fils, François, qui détient la moitié des fonds Vernède, abandonne le négoce en laine pour la soie, les cuirs et les colorants. Bon gestionnaire, il est remarqué par Simon Gilly, de la société Gilly Frères et Compagnie, gros négociant, conseiller à la cour des aides de Montpellier et père même d'un futur directeur de la Compagnie des Indes. Il lui fait épouser sa fille en 1729 et 3 ans plus tard, le couple achète à l'apothicaire Samuel Guiraud l'ancienne hôtellerie du logis de la Pomme d'Or, proche du plan du marché au blé. Une grande maison avec cour s'ouvrant sur l'ancien marché aux huiles et sur la rue de la Violette. Ils y auront 7 enfants, tous baptisés catholiques pour la forme, à Saint-Castor, et qui se partageront entre Paris pour la banque, Cadix et Lyon pour le négoce, et en relation étroite avec des négociants germaniques, flamands, Amsterdam, britanniques et juifs à Londres. La compagnie Fournier exporte à Cadix des toiles de Silésie, des draps, dont un tiers venu d'Angleterre, et quelques étoffes de soie de Nîmes, mais aussi des métaux précieux et des denrées coloniales américaines. Propriétaire d'intérêts dans l'armement maritime, la banque ou l'assurance, la fortune de François est évaluée à plus de 500 000 livres. Il associe ses fils et défend jalousement ses réseaux, notamment vis-à-vis des André. Ainsi, il écrit à Audibert : Ils feront toujours bien quand ils se tiendront ici, à Nîmes, à leur fabrique et à Lyon, aux ventes de commissions. Chacun doit se tenir dans sa sphère.
Cependant, son fils Barthélemy épouse en 1759 Suzanne André pour élargir le réseau commercial international. Barthélemy devient un des riches négociants de la Compagnie des Indes jusqu'à la disparition de celle-ci en 1768. Dans la maison nîmoise travaillent alors un teneur de livres, deux copistes et deux apprentis qui relaient les ordres des comptoirs de Cadix, Marseille, Londres ou Amsterdam vers Chandernagor, Canton, Veracruz, Lima ou Buenos Aires. En 1766, suite à la faillite de la Société des Gilly à Cadix, Barthélemy rétablit le crédit de ses frères en fondant la maison Simon et Arnaille, Fournier et compagnie, qui tiendra le haut du pavé à Cadix jusqu'en 1786 et supplantera d'ailleurs l'établissement nîmois affecté par la crise dès 1774.
Notable reconnu et apprécié par le gouverneur de la province, le comte de Périgord, Barthélemy lui déconseille en 1777 de réprimer des émeutes de la faim, indiquant que l'intérêt du commerce, plus efficace que l'autorité, vole à leur secours et tout reprend son niveau. Il précise « Je croirais faire un acte de bon citoyen et me rendre agréable au gouvernement » en faisant le léger sacrifice de l'envoi de quelques blés de Bourgogne par le canal du Midi, mais pour ôter tout le soupçon que le gouvernement s'en mêle et éviter le mauvais effet, il faudrait, même en faisant un sacrifice réel, que ces envois parussent être l'effet de la combinaison des prix et une espérance de profit. En 1779, il achète la baronnie de Lédenon avec les terres de Clauzone, et écrit à son frère « Il a paru convenable que je prisse le nom de ma terre par lequel je serais mieux désigné que par la qualité de négociant, quoique je me glorifie toujours d'être de cet état. » Comme les affaires nîmoises vont mal, la fabrication du bas de soie cesse vers 1778, il préfère maintenant gérer ses terres pour, dit-il, mener à la façon genevoise une vie de capitaliste rentier. Il constitue une importante bibliothèque de 216 volumes caractéristiques de ce temps des Lumières, dont une vingtaine sur des sujets religieux concernant la tolérance, mais aussi des ouvrages scientifiques. Dès 1767, par exemple, il préconise la variolisation pour ses propres enfants. Académicien en 1773, il participe dans l'ordre de la noblesse à l'assemblée préliminaire de la Sénéchaussée pour la convocation des États généraux, avant de mourir en 1788.
On voit à travers ces exemples familiaux comment émerge alors peu à peu un capitalisme international qui triomphera au XIXe siècle avec sociétaires et dividendes. Mais survient alors la Révolution française de 1789, à laquelle nos négociants nîmois protestants participent volontiers. On y débat sur la place de l'État dans la protection sociale, mais sans en prévoir le financement. Déjà en 1776, pour libérer le commerce, Turgot avait voulu supprimer les corporations ce qui lui avait valu sa disgrâce.
En 1791, au nom du libéralisme économique et pour contrer l'influence populiste catholique, deux mesures importantes et complémentaires sont prises. En mars, le décret de Pierre Dalarde instituant la patente et mettant fin au dispositif d'entraide des corporations professionnelles et privées. Et en juin, la loi du jacobin Isaac Le Chapelier interdit toute coalition, car il ne doit y avoir aucun intermédiaire entre l'État et le citoyen. Tout groupement professionnel, dont les associations et autres organisations de personnes, tant ouvrières que patronales. Mais ce sont surtout les groupements ouvriers qui sont visés dans le rapport de Camille Desmoulins par crainte des « coalitions » qui formeraient les ouvriers pour faire augmenter le prix de la journée de travail.
En 1793, l'article 21 de la loi sur les secours publics envisage pour la première fois le droit au travail et à la santé pour tous. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Mais cette déclaration généreuse sera sans suite. Les ouvriers sont livrés à l'arbitrage des employeurs et les malades mentaux, aux esprits trop libres et cerveaux dérangés, continuent d'être incarcérés par lettres de cachet.
1810 renforce et généralise même la loi Le Chapelier en l'inscrivant dans le Code civil pour toute association de plus de 20 personnes. Cependant, malgré interdits et répressions, des auto-organisations mutualistes d'associations ouvrières naissent dans la clandestinité. Elles ne sont reconnues qu'en juin 1835 par la loi Humane en tant que sociétés de secours mutuels, mais strictement réglementées. Par crainte de leur tendance révolutionnaire, l'État se réappropriera l'esprit des mutuelles par une série de lois à partir de 1852 et en 1856, des associations mutuelles seront autorisées à fournir des plans de retraite, mais qui demeureront marginale.
Le monde patronal organise sa propre solidarité au sein des chambres de commerce et d'industrie. Déjà au XVIe siècle, des maisons consulaires contrôlées par des armateurs étaient apparues dans les ports, à Marseille par exemple en 1599, à Rouen en 1601, toutes approuvées par Henri IV. Vers 1700, ce sont les chambres de commerce qui s'ouvrent dans une dizaine de villes commerciales et regroupent les activités agricoles puis artisanales. À Montpellier, par exemple, en 1704, la loi Le Chapelier les fermera, mais Chaptal les rétablira en 1802 avec l'aval du premier consul. Ainsi, celle de Nîmes, créée en 1803, regroupe les principaux fabricants et négociants dont beaucoup sont protestants.
Dans le même temps, le monde bancaire tente d'introduire l'épargne populaire. Ainsi, les statuts de la Caisse d'épargne de Nîmes sont déposés en 1833. C'est une société privée, initiée par une vingtaine de banquiers, autorisée par Louis XVIII et avec garantie de l'État par Louis-Philippe, avec la fixation d'un plafond par livret. La loi de juin 1835 la reconnaît d'utilité publique et en 1837, le roi cautionne l'épargne en donnant aux enfants méritants d'ouvriers des livrets de caisse d'épargne avec première mise.
Pour sa part, à la suite de dons de M. Donnant et du banquier Agénor Moline, le diaconat de l'ERN distribue en 1852 des livrets de caisse d'épargne de 50 francs à 4% pour des pauvres pères de famille, des enfants d'ouvriers ou de veuves. De fait, le rôle des diaconats charitables protestants comme catholiques demeure toujours essentiel. À Nîmes, le diaconat protestant distribue de nombreux tickets de pain, de charbon. Les veuves constituent le tiers des assistés. Et une caisse des pauvres est alimentée par dons et legs.
En 1842, le diaconat développe la société de prévoyance et de secours mutuel qui couvre, en cas de maladie, les ouvriers protestants qui cotisent. En 1847, on crée la société des Amis des pauvres. Dans le domaine des soins médicaux, la charité trouve pourtant ses limites et Esquirol propose dès 1818 la création d'asiles spécialisés pour se substituer aux hôpitaux et hôtels-lieux qui sont, dit-il, des mouroirs pour indigents. Contrairement aux pasteurs nommés et payés par l'État, comme tous les ecclésiastiques reconnus par le Concordat et les actes organiques de 1802, les diacres sont élus et non contrôlés par le gouvernement. Si bien qu'en avril 1838, le ministre de la Justice et des Cultes rappelle au consistoire: messieurs les diacres sont spécialement chargés de l'intérêt des pauvres et ne devront plus être convoqués pour concourir, sous quelque forme que ce soit, à l'élection des pasteurs.
Non concordataire, le réveil méthodiste est aussi très actif en fondant notamment de nombreuses écoles avec une pédagogie mutuelle. Édouard Kruger, qui dirige la communauté Inchist, les méthodistes radicaux, ouvrent en 1857 La Famille, une maison de refuge au 32 rue Pasteur pour femmes en danger. C'est une pension pour jeunes filles abandonnées ou orphelines.
Mais en réalité, la crise économique et sociale nîmoise est profonde. En juin 1847, la production textile a chuté de plus de 80%. La révolution industrielle entamée depuis près d'un siècle en Grande-Bretagne gagne les régions méditerranéennes, bousculant toutes les structures artisanales et commerciales traditionnelles.
Or, des expériences intéressantes se développent dans le monde protestant anglo-saxon. En Écosse, Robert Owen, un gros négociant de coton gallois, veut améliorer les conditions de travail et de vie des salariés de sa filature, New Lanark, par l'éducation des travailleurs et de leurs enfants. Un moment associé au Quaker William Allen, il met en place dans les années 1820 des crèches, une école et une première coopérative de consommateurs. Il lance le slogan « 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil » et instaure en 1832 une bourse du travail équitable basée sur des annonces directes d'emploi. Par contre, il ne parvient pas à créer des villages de coopération où les travailleurs pourraient se sortir eux-mêmes de la pauvreté par autogestion et en autarcie.
Dans la même période, le franc-comtois catholique Charles Fourier, persuadé que liberté comme égalité sont des leurs et que l'harmonie sociale de la collectivité résulte plutôt de la diversité, rédige son traité de l'association domestique agricole. Un socialisme coopératif qui inspirera la formation du phalanstère après sa mort en 1836, dont plusieurs en Amérique, et celui de Guise par Jean-Baptiste Godin à partir de 1859.
En 1844, 28 tisserands pauvres de Manchester se rassemblent pour fonder la Société des équitables pionniers de Rochdale et ouvrent un magasin coopératif afin de garantir des achats de première nécessité à prix coûtant. Puis ils construisent ensemble leur maison avant de lancer une manufacture textile selon les principes mutualistes. En assemblée générale, chaque sociétaire a une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Les bénéfices sont distribués entre les vendeurs au prorata de leur apport. Ceux qui ont acheté des actions touchent chaque année un intérêt proportionnel à leur nombre d'achats et non aux bénéfices, d'où l'intérêt d'acheter beaucoup de produits plutôt que beaucoup d'actions.
D'une quarantaine de souscripteurs en 1844, la société en a 390 en 1849 et plus de 10 000 en 1880. Les coopératives de consommation anglaises compteront plus d'un million d'adhérents au début du XXe siècle. Ces exemples feront école, notamment à Nîmes, comme nous le verrons la prochaine fois.